Voici une question qu'on a presque tous entendue un jour. Quelle est la recette du bonheur? La parole de Dieu va nous donner cette recette infaillible aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on a des questions qui vont réellement intéresser tous nos auditeurs aujourd'hui. Elles sont toutes simples, mais les réponses qu'on va recevoir des Saintes Écritures seront sûrement très utiles pour notre marche avec Dieu. Voici les questions. Qu'est-ce que Dieu pense de l'hypocrisie? Quelle est la recette du bonheur? Devons-nous chercher à avoir une position qui nous mette en évidence dans l'Église? Est-ce que c'est important de connaître les dons qu'on a reçus de Dieu? Est-ce que chaque croyant doit essayer de découvrir son don? Est-ce que « exhorter » signifie uniquement « corriger » Pouvons-nous dire de bonnes paroles aux gens sans vraiment les penser? De quelle manière pouvons-nous avoir le mal en horreur et nous attacher fortement au bien? Comment pouvons-nous être certains de servir le Seigneur? Demeurez à l'écoute, je crois qu'on va apprendre beaucoup sur la manière de servir notre merveilleux Maître dans les prochaines minutes par la bouche du pasteur Régent Joly, qui est prêt à nous enseigner toute cette belle parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci aussi d'avoir donné ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour ce don gratuit. Merci de m'avoir donné ton Esprit Saint pour que je comprenne tes Saintes Écritures. Puisses-tu te faire connaître aux gens aujourd'hui, à ceux qui ne te connaissent pas, à travers cette émission, à travers cet enseignement, touche nos cœurs à nous les croyants, pour qu'on puisse grandir dans tes voies, et touche le cœur des gens qui sont sans toi dans le monde. Donne-leur ton beau salut, Seigneur, aujourd'hui même. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a toujours sauvé un reste en Israël. Tous, juifs ou non, sont sauvés par la miséricorde de Dieu. Nous recevons notre Sauveur par la foi, et il n'y a rien de méritoire dans cela. Tout se fait par grâce. Nous avons aussi souligné la sagesse infinie de Dieu. Il est sage dans tout ce qu'il fait. Il ne consulte personne, car qui peut lui donner des conseils? Dieu n'a pas besoin de conseiller. De plus, Dieu ne doit rien à qui que ce soit. Nous avons aussi établi que cette dernière section de l'Épître aux Romains contenait des principes de vie chrétienne et non des règlements. Paul ne cherchait pas à placer les chrétiens sous un autre joug légal après qu'ils furent libérés de la loi mosaïque. Le premier verset du chapitre 12 nous invite à nous consacrer à Dieu, à offrir notre corps, notre personnalité entière au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous reprenons notre étude à partir du verset 2. Commençons cette lecture de Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous pouvons le dire autrement. Nous pouvons dire « cessons de porter attention à ce que nous ne sommes pas dans notre cœur et à ce qui ne nous représente pas, mais qui est modelé selon ce monde. » Plutôt, exprimons sincèrement ce qui est dans notre cœur et ce qui nous représente, en laissant renouveler notre intelligence de sorte que nous mettions à l'épreuve ce qu'est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait dans notre vie. Être ou ne pas être? Voilà la question. Cette paraphrase est élaborée, mais c'est exactement ce que Paul dit dans ce verset. Paul encourage les croyants à ne pas se modeler selon la conduite de son entourage, mais sur ceux qui sont membres d'Église, sur ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu. Dieu n'accepte pas l'hypocrisie. Je connais des groupes de personnes super pieuses. Lorsqu'elles se rencontrent à une réunion d'église, elles mettent un masque qui ne correspond pas à ce qu'elles sont en réalité. Je vous le dis, lorsqu'elles se rencontrent à l'église, vous pourriez quasiment voir leur auréole très polie. Ces personnes ne se comportent pas normalement, ni naturellement. Cependant, si vous désirez entendre les pires médisances, il vous faut voir ces gens. Il vous faut les entendre. L'enfant de Dieu ne devrait pas se comporter ainsi. Nous devrions être normal et naturel. Ou est-ce que je devrais dire normal et surnaturel? C'est si facile de jouer un rôle, de porter un masque. C'est le véritable sens du mot hypocrite. Le mot grec, hypocrite, signifie acteur. Il jouait un rôle. Hypocrite signifie donner la réplique. Au théâtre, cela signifie dire notre réplique au bon moment. Au quotidien, être hypocrite, c'est sembler être ce que nous ne sommes pas. J'ai appris au cours des années que des personnes qui te félicitent en leur présence, qui te sourient et qui te tapent dans le dos, peuvent être tes pires ennemis. C'est dangereux d'être en leur présence. Shakespeare, un célèbre dramaturge anglais, a dit que le monde était une scène et que tous jouaient un rôle. Ceci n'est pas vrai pour le croyant. Il doit être sincère, parce que le Saint-Esprit travaille dans le cœur et transforme sa vie en renouvelant son intelligence. Je répète ceci de nouveau. Paul a dit aux Corinthiens, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. De plus, il a dit à Tite, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Tite, chapitre 3, verset 5. En permettant au Saint-Esprit de renouveler son intelligence, le croyant peut éprouver la volonté de Dieu et découvrir qu'elle est bonne. Dès que nous affectons d'être ce que nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas déterminer quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. En s'offrant au Seigneur, en lui cédant, le croyant voit que la volonté de Dieu pour sa vie est bonne, et il en fait la sienne. Premièrement, il voit que la volonté de Dieu est bonne, ensuite qu'elle est acceptable, et finalement qu'elle est parfaite. Alors, la volonté du croyant et celle de Dieu font une, mes amis. Une telle situation ne peut pas être améliorée. Paul disait, « Je puis tout. Comment ? Par Christ qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Les croyants peuvent accomplir tout ce que Dieu leur demande, tout ce qui fait partie de la volonté de Dieu. C'est merveilleux, puisque nous n'avons pas essayé d'être chrétiens. Nous n'avons qu'à être naturels, et l'Esprit de Dieu travaille en nous. La recette du bonheur ? Oh, vous la cherchez ! La voici. Or, si nous pouvions tout remettre dans les mains du Seigneur, Paul nous supplie de faire cela. C'est la recette du bonheur. C'est le chemin qui mène à la joie et à la plénitude. Si vous êtes dans une église, parmi tant d'acteurs, sortez de là et essayez de vivre une vie chrétienne normale où vous pourrez être sincère. Un jour, un homme a dit au pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, « Mon épouse et moi avons cessé de fréquenter telle assemblée. » McGee demanda pourquoi. « Nous nous sommes lassés de fréquenter un endroit où vous deviez jouer un rôle. Être ou ne pas être, voilà la question. » Personne n'était normal dans cette église. J'ai découvert cela lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer un membre super pieux du groupe dans son milieu de travail. J'ai eu à peine à reconnaître l'homme. C'était une toute autre personne. Lorsqu'il n'était pas avec le groupe pieux, il se conformait au monde. Oh, puissiez-vous être un chrétien normal et jouir des bénédictions de Dieu, chers amis. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu veut que nous soyons humbles, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. J'imagine que lorsque Paul a écrit ces mots, il devait sourire malicieusement, en effet. Il y a tellement de chrétiens qui sont ambitieux et qui pensent qu'ils devraient avoir une position prominente dans l'Église. J'ai observé que dans l'œuvre chrétienne, de nombreuses personnes désirent un poste important. Si vous désirez être un pasteur qui réussit et faire travailler les membres de l'Église comme dans une fourmilière, alors créez de nombreux postes, des comités, des conseils pour avoir des présidents et c'est que des vice-présidents. Des personnes qui n'auraient pas accepté de travailler sous d'autres conditions accepteront de se mettre au travail. Pourquoi? Parce qu'elles ont une haute opinion d'elles-mêmes. Nous devons revêtir des sentiments modestes. Il dit que nous ne devrions pas nous mettre de l'avant dans les milieux chrétiens. Un croyant est toujours en danger de surestimer ses habiletés, son caractère et ses dons. Nous devons bien nous connaître, surtout en ce qui a trait aux relations avec les autres membres de l'Église. Voici ce qu'a raconté J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes. Lorsque je suis devenu pasteur de certaines églises, je fus invité à siéger sur les conseils de direction de certaines organisations. J'en suis venu à servir sur une douzaine de comités différents, et ce travail m'ennuyait. Je m'ennuyais parce que je n'étais pas doué pour ce genre de travail. Premièrement, je n'ai pas la patience d'entendre lire de longs procès-verbaux. Deuxièmement, je n'aimais pas participer à une réunion et entendre un groupe d'hommes incompétents discuter de choses spirituelles. J'ai pris un certain temps avant d'admettre que je n'avais pas les dons pour me rendre utile sur ces comités et que je m'épuisais à assister à de nombreuses réunions d'affaires. La vie chrétienne devint ennuyeuse pour moi. Un jour, comme le fils prodigue, je suis revenu à mes sens, je me suis assis et j'ai rédigé une douzaine de lettres de démission. Ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Aujourd'hui, je ne fais pas partie d'aucun comité. Des amis me demandent « Ne participerais-tu pas à mon comité ?» Je réponds « Non, je ne te serai pas utile. Je n'ai pas les dons pour ce genre de travail. Je t'appuie, je vais prier pour toi, mais je ne peux pas faire partie de ton comité. » Mes amis, nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Nous devons reconnaître nos faiblesses et faire les choses que Dieu nous demande. C'est une joie de trouver la niche que Dieu nous a préparée. Versets 4 et 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est la première fois que Paul aborde le thème de l'Église étant le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sujet principal de Paul dans les lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens et aux Colossiens. L'Église, qui est le corps de Christ, doit fonctionner comme un corps. Cela signifie que les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Vous pouvez avoir un don que je suis incapable d'exercer. Il y a des centaines de membres dans le corps de Christ, donc des centaines de dons. Je ne crois pas que Paul ait jamais donné la liste complète des dons de l'Esprit, puisque chaque fois qu'il en donne une liste, nous en retrouvons qui ne sont pas sur les autres listes. Je suis certain que l'Esprit l'a voulu ainsi. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Connaissez-vous le ou les dons que Dieu vous a donnés? Charismata est le mot grec traduit par don. Il a la même racine que le mot grâce. Il peut être traduit grâce ou don gratuit. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. Il donne à son Église des hommes qui ont le don de prophétie, d'enseigner. Puisque nous avons reçu des dons, chaque membre du corps de Christ ou de l'Église a reçu un don et une fonction à accomplir. Différent, précise le texte. Cela signifie que les dons varient d'un individu à l'autre, mais cela ne signifie pas qu'une personne n'a pas reçu de don. Chaque individu dans une communauté chrétienne a reçu un don. Ce don fait partie de la grâce que Dieu nous accorde. Lorsque Dieu vous sauve, et vous incorpore à son corps, il s'attend à ce que vous remplissiez vos fonctions. Vous ne devez pas fonctionner comme une machine, mais comme un membre du corps, une organisation vivante. Lorsqu'un don est exercé, cela est confirmé par la puissance du Saint-Esprit. Chaque croyant doit essayer de découvrir son don. Si vous pensez avoir un certain don et que vous l'utilisez, alors éprouvez-le. Analysez votre efficacité. Êtes-vous une bénédiction pour les gens? Édifiez-vous l'Église ou divisez-vous l'Église? Le don de prophétie. Ce terme ne signifie pas une prédiction, mais une prophétie est un message de Dieu. Le don de prophétie est exercé en fonction de la foi et de la puissance que Dieu nous accorde. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le ministère. Ceci veut dire bien des choses. C'est rendre un service, et il y a de nombreuses façons de rendre un service. Préparer une salle pour une réunion. Distribuer des livres, les livres de cantiques. Certaines personnes n'ont pas le don de prédication ou d'enseigner, mais elles peuvent rendre des services très utiles. Prenons l'exemple d'une dame qui peut être très douée pour organiser un repas, où tout marchera comme sur des roulettes. Cette dame ne serait peut-être pas présider le comité des œuvres missionnaires, où personne n'oserait l'inviter à faire partie de la chorale. Mais si tu voulais organiser un repas d'église, c'est à elle que tu penseras immédiatement. Le ministère comprend de nombreux dons, chers amis. Verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Exhorter n'est pas seulement corriger. Le mot exhortation est la traduction du mot grec paraclésis. Ce mot signifie appeler près de. Exhorter, c'est consoler, c'est accompagner la personne dans son besoin. Certaines personnes ont le don de consoler. Je connais un pasteur qui n'est pas un bon prédicateur et il le sait. Cependant, il est un consolateur formidable. Si j'étais malade ou si j'avais perdu un être cher, j'aimerais qu'il me visite. Il a le don de consoler ou d'exhorter. Celui qui donne est celui qui partage ses biens terrestres. Dieu vous a peut-être donné le don de faire de l'argent. C'est un don, en effet. Je connais des hommes d'affaires, chrétiens, à qui Dieu a donné ce don. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Nous touchons maintenant à un don de leadership. Certains hommes sont des leaders et ils doivent exercer ce don dans l'Église afin que tout se fasse avec ordre et bienséance. Il faut aussi des personnes avec le don d'administrer pour gérer les affaires de l'Église. Le leadership comprend une grande responsabilité. Il faut découvrir ce qui ne va pas dans l'Assemblée pour encourager, corriger, exhorter et toujours chercher à ramener les gens dans la bonne voie avec amour, douceur et, lorsque nécessaire, avec fermeté. Pratiquer la miséricorde, c'est poser des gestes bons et généreux. Par exemple, certains croyants sont un rayon de soleil lorsqu'ils pénètrent la chambre de malade, alors que d'autres apportent des nuages sombres. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Le chrétien doit être associé ou identifié au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Ne dites pas aux gens de bonnes paroles sans les penser. Soyez sincères. Que votre amour soit sans hypocrisie. De ce commandement découlent les autres commandements. Tout tourne autour de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ayez le mal en horreur. Exprimez votre haine de ce qui est mal. Si vous remarquez quelque chose qui ne va pas dans l'Église, signalez-le aux autorités compétentes. Si vous siégez au conseil de l'Église et que vous remarquez qu'une chose malhonnête se fait, alors il faut défendre la vérité avec fermeté. Dans les Églises, il y a trop de personnes tolérantes qui n'ont pas le courage moral d'appuyer tout ce qui est honorable et condamner le péché. C'est pourquoi de nombreuses Églises éprouvent des difficultés aujourd'hui. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui savent se tenir debout pour combattre tout ce qui est mal. Attachez-vous fortement au bien. Attacher signifie coller comme du ruban adhésif ou être soudé à quelque chose. Le bien, dans le cas qui nous intéresse. Un croyant devrait toujours être identifié à ce qui est bien, plutôt qu'à des pratiques et des entreprises douteuses. Versets 10 et 11. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est-à-dire, ayez de l'affection familiale. C'est cela l'amour fraternel. Voici une autre façon de l'exprimer. Aimez vos frères dans le Seigneur comme s'ils étaient vos frères naturels. Par exemple, trois hommes sont assis ensemble. Deux sont des frères jumeaux, mais un seul des deux est chrétien. Le troisième homme est un chrétien venant d'Afrique. Sa culture, son vécu, sa langue sont totalement différents de celui des jumeaux. Le jumeau chrétien est plus proche de son frère dans la foi, l'homme africain, qu'il ne l'est de son frère naturel. Mes amis, soyez aimables avec vos frères dans la foi, sachant que vous passerez l'éternité avec eux. Dans l'au-delà, vous aurez des corps nouveaux et vous n'aurez plus votre vieille nature. Alors il sera plus facile de vous entendre. Servez-vous le Seigneur? Voilà ma question. Ayez du zèle et non de la paresse, dit le texte. Sommes-nous zélés pour l'œuvre de Dieu, pour manifester notre amour envers les frères, pour proclamer l'Évangile? Servons-nous avec zèle? Vous remarquerez qu'il est beaucoup plus facile d'avoir du zèle lorsque nous avons confiance en Dieu et que nous avons la conviction que nous accomplissons son plan pour notre vie. Soyez fervent d'esprit. Votre visage est-il épanoui à cause de l'esprit? Notre zèle et notre enthousiasme doivent être contrôlés par l'esprit. Nous réjouissons-nous de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Dieu est honoré par notre joie lorsqu'elle découle de l'espoir que nous avons parce que nous mettons notre confiance en lui. Et finalement, servez le Seigneur. Tout ce que nous faisons doit l'être en fonction de ce but, servir le Seigneur. Il n'y a qu'un moyen de servir le Seigneur, c'est d'être guidé, contrôlé par l'Esprit de Dieu. Si nous ne servons pas avec la puissance de l'Esprit, c'est que nous servons quelqu'un d'autre que Dieu. Nous nous servons ou nous servons une idole. Écoutez ce texte tiré de 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous servons un patron ou un employeur seulement si nous acceptons de suivre ses ordres et ses directives. De même, nous servons Dieu seulement s'il nous dirige par son esprit. Si ce n'est pas le cas, nous sommes comme un employé qui travaille au noir pour le compétiteur de son employeur. Avec le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Ou Dieu est notre Dieu, ou nous préférons une idole. Dieu est un Dieu jaloux qui désire tout notre cœur. Je vous encourage, la Bible nous encourage, à confesser toute idole qui pourrait y avoir dans notre cœur, et, par le fait même, de l'abandonner, de délaisser cette idole afin que Dieu puisse y retrouver la place qui lui revient dans notre vie. Examine-toi, regarde, à l'instant même, où est ton cœur, à quoi est-il attaché, et implore Dieu. Dieu, qui par sa puissance, peut retirer cette idole dans ton cœur et y placer sa présence par son Esprit Saint. Et par le feu même, tu pourras devenir une servante, un serviteur de Jésus-Christ. Sois un instrument pour Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 12, verset 12 à chapitre 13, verset 1er.
Merci beaucoup, Régent. Pour ceux qui croyaient que la recette du vrai bonheur n'existait pas, je crois que c'est extraordinaire de constater qu'elle existe réellement. On a vu que ce qu'il faut faire, c'est de tout remettre dans les mains de Dieu. Voilà le chemin qui mène à la joie, à la plénitude. Ça me fait penser au psaume 23, qu'à peu près tout le monde connaît. Dans ce psaume, au verset 6, David dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et on sait que David débute ce psaume en disant « L'Éternel est mon berger. » Dans l'histoire de David, on voit combien de fois il a été dans des situations périlleuses, mais qu'il s'en remettait toujours à Dieu pour être délivré. Par exemple, il n'a pas essayé de se venger lui-même contre Saül. Il avait confiance en Dieu. Il pouvait donc vivre heureux, même dans des circonstances adverses. Mon ami, est-ce que tu vis des choses comme celles de David? Moi, je peux dire que j'en ai vécu et je sais que j'en vivrai encore. Mais le Seigneur est toujours là pour prendre soin de moi, pour me protéger, pour me donner de l'assurance. Et je n'ai même pas besoin d'avoir confiance en moi. J'ai simplement confiance au bon berger. Confiance en Jésus, mon Sauveur bien-aimé. Jésus a dit lui-même dans l'Évangile de Jean, au 10e chapitre, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, quand bien même ma vie serait en danger, je sais que je suis sous la protection du bon berger, de ce bon berger qui est mort sur la croix pour moi, afin de payer la dette de mon péché. » Quand Jean-Baptiste a vu ce bon berger, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il y a seulement Jésus qui est à la fois un agneau et un berger. Il est donc un berger qui comprend ses agneaux, qui comprend leurs souffrances, puisqu'il est l'agneau qui a été immolé sur la croix pour ses brebis. Quel bonheur d'appartenir au bon berger. Ce bon berger qui est décrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 7, comme étant semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent et qui n'a pas ouvert la bouche alors qu'il a été maltraité et opprimé. Mon ami, est-ce que cet agneau est devenu ton berger? Il est le mien depuis plus de 27 ans et je n'ai jamais regretté d'avoir dit oui quand il s'est invité dans mon cœur. Et maintenant, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Oh, mon ami, si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi. Il va souper avec toi et toi avec lui. Il ne s'invite pas juste à dîner comme un collègue de travail ou une connaissance quelconque. Jésus veut souper avec toi, il veut être intime avec toi. Ce bon berger, reçois-le comme ton sauveur, reçois-le comme ton Seigneur. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner cette vie qui va durer jusque dans l'éternité.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et je suis devenue une enfant de Dieu, je suis née de nouveau, et maintenant je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.